vous accueillir pour la première émission d'Enchanté, un rendez-vous mensuel, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. L'idée de cette émission, qui est donc nouvelle dans la grille de programmation de la radio cette année, c'est de faire des liens entre musique et littérature sur des thématiques précises. On va essayer de se poser différentes questions tout au long de ces rendez-vous. Comment les auteurs sonorisent de musique, mais aussi comment les paroliers et les musiciens s'inspirent des textes littéraires. En fait, comment musique et littérature peuvent s'inscrire dans une grille de lecture commune. L'idée c'est d'avoir un angle bien précis qui à chaque fois nous permette de faire des ponts entre ces deux domaines artistiques qui nous passionnent toutes deux. On va se présenter, moi c'est Valentine, attachée de presse musique qui passe beaucoup trop de temps à lire dans les concerts.
Et moi c'est Marie, journaliste culture à temps partiel et rêveuse à en perdre 16 heures.
Nous sommes enchantées. 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 Enchantées.
Alors aujourd'hui, on va vous parler de la génération X sur fond de musique aseptisée. Parce qu'entre Télérama qui sort une couverture sur la crise des 18-25 ans et Le Monde qui nous dit que les jeunes sont la cible des clichés médiatiques, notre génération a de quoi vraiment s'inquiéter selon la presse. Pourtant, si on y réfléchit bien, il y a quand même un phénomène jeune con dans toutes les générations. Et bizarrement, au final, il y a toujours un vieux sage pour trouver du nouveau jeune con. Le Monde, dans son papier sur les victimes des médias que sont les jeunes, introduit ainsi « Ils sont paresseux, avides de sexe et de jeux vidéo ». On le sait bien, les jeunes sont des irresponsables. Bien sûr, le journaliste remet directement en question cette affirmation afin de plaider la cause de la jeunesse, cette fameuse et nouvelle génération Y. Pourtant, cette citation ressemble davantage à celle de la génération qui nous sépare de nos parents, cette génération X qui a tant fait couler d'encre et qui fait l'objet de notre première émission. Parlons-en encore un peu de cette génération X, autrement appelée génération MTV ou pauvre génération en français, et faisons-la raisonner entre musique et littérature. Donc, elle est née entre 1960 et 1980, donc ils ont entre 34 et 54 ans. Ont passé leur jeunesse dans les années 80-90 devant ce qui était encore la première chaîne musicale de l'histoire de la télévision, MTV. Beaucoup d'écrivains en font partie et traduisent les caractéristiques de cette génération X. Après tout, ils ont entre 35 et 45 ans aujourd'hui. Donc ici, on parlera de Bret Easton Ellis, de Chuck Palahniuk, de Douglas Coupland, mais aussi de Michel Houellebecq et Steve Tezich. On s'aperçoit que, de près ou de loin, l'écriture et la génération X est tout à fait propice au phénomène qui agite l'industrie musicale à cette époque. MTV, qui, grâce aux clips vidéo, permit une large diffusion musicale où la pop faisait légion, rassemblant toute une génération autour de l'univers MTV.
Donc cette émission va se dérouler en deux temps. On aura une première partie analytique où on va essayer d'explorer cette fameuse génération X sur fond de musique aseptisée. Et dans un deuxième temps, on prendra place à un débat auquel participeront nos deux invités du jour. Je vous présente d'abord Thierry Teston, bonjour.
Bonjour, je suis aseptisé.
Le co-réalisateur donc avec Laurent Tessier du documentaire sur MTV qui a été diffusé cet été sur Arte dans le cadre du Summer of 90s qui s'intitule MTV Machine à Tube. Et accompagné d'Alexis Broca, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au magazine littéraire et écrivain. Donc vous êtes tous deux issus de cette génération qui fait l'objet de notre émission. Et on va essayer avec vous d'ouvrir l'analyse et grâce à vos points de vue et votre expertise, votre spécialité. Évidemment, on n'est pas les premières à parler de la génération X. Et d'ailleurs, elle est au devant de la scène assez fréquemment. En ce moment, par exemple, côté bouquin, qu'est-ce qui se passe, Marie ?
Bah, Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, hein, de Snuff, qui est sorti il y a à peu près 2 ans, publie un nouveau roman chez Sonatine, Danée. Donc Danée, c'est l'histoire de Madison qui a 13 ans, qui est morte. Elle est grosse aussi et puis elle est moche. Elle n'aimait pas beaucoup la vie de toute façon, donc l'enfer construit par Chuck Palahniuk dans Danée lui convient très bien. Elle s'y fait des amis, des vrais amis, hein, pas de ceux qui lui apprennent le French kiss en manquant de la tuer. Et avec cette nouvelle bande de potes, elle découvre les terres dangereuses de l'enfer. Le fleuve du vomi fumant, la vallée des couches jetables usagées ou le grand océan du sperme gâché. Et surtout, elle entrecoupe cette aventure par des flashbacks de son vivant, son quotidien, ses parents ultra-friqués du showbiz américain, ancien hippie qui, pour son anniversaire, lui prépare une piñata remplie de coke, de weed, de LSD, bref, que des bonnes choses. Danée, s'il ressemble parfois un peu trop à un dessin animé type Warner Bros., demeure une belle appréciation de la génération star de notre émission. Cette espèce de résidu, hein, soyons un petit peu méchants, de valeurs communautaires et aveuglés sinon par la dope qu'ils ont pu prendre à Woodstock, en tout cas par l'absence totale d'espoir investi dans la vie. Alors je vais vous lire un tout petit extrait de Danée pour que vous puissiez apprécier l'écriture de Chuck Palahniuk. J'aimerais pouvoir oublier cette scène lors de mon 12e anniversaire, lorsque j'ai crevé une piñata munie d'un manche à balai devant mes semblables et leurs parents passéistes, anciens hippies, anciens rasta, anciens anarchistes. À l'instant où le papier mâché multicolore a éclaté, au lieu des rouleaux de réglisse et des fraises tagada, tous les invités ont été inondés de Vicodine, Darvon, Percodan, ampoules de poppers, buvards de LSD et d'un assortiment de barbituriques. Les parents, désormais richissimes et entre deux âges, étaient aux anges. Mes petites copines et moi, on ne pouvait pas s'empêcher de se sentir un peu floués par contre.
«
Et côté musique, alors Valentine, il se passe quoi ?
Je vais vous parler de deux albums qui sont sortis récemment et qui m'ont tout de suite fait penser à cette génération MTV. Enfin, on rediscutera de tout ça avec notre invité tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je voudrais évoquer Sixteen et son album Sweet Sixteen. À la base, c'est un album qu'on pourrait qualifier d'électro-glamour-pop. Et qui, même s'il a plus d'influence discoïsante que empreinte de vibes des années 90, a tout un peu du groupe putassier qui a su s'emparer des codes de la musique mainstream. Par là, je veux dire que ce duo est composé d'Eric Chedeville, un pilier de la French Touch, qui a notamment fondé le label Cri d'amour et qui a réalisé tout l'album de Sébastien Tellier, Sexuality, mais qui est accompagné de fraîcheur de cette jeune chanteuse qui s'appelle Mélanie et qui admire Eric depuis son plus jeune âge et qui en retour a fait d'elle sa muse. Donc c'est un album empreint d'une magnifique histoire d'amour. Et de surcroît, ce groupe a su aller jusqu'au bout dans son branding puisqu'il s'est associé à la marque de Zadig et de Philosophe, que je ne vais pas citer ici puisque je crois que j'ai pas le droit à l'antenne, mais vous savez tous de quoi je veux parler. Et donc voilà, en fait, Sixteen, ça a tout d'une musique complètement réchauffée avec une chanteuse qui n'en est pas vraiment une. Et à ce titre-là, je trouve que c'est un peu un groupe emblématique de cette génération MTV qui s'est extrêmement bien joué sur l'image et quelque part sur les codes du mainstream. Dans un deuxième temps, je voulais évoquer Yael, qui a sorti son troisième album en octobre dernier. Comment ne pas penser à elle dans le cadre de notre thématique ? Yael, c'est la petite princesse pop de la pop fluorée française, qui se veut un peu ironique, mais en même temps, sa musique sonne vraiment comme un mélange entre une pop ultra niaise et chewy, mais qui dessine vraiment Yael comme l'artiste qui incarne parfaitement cette beauf génération qu'on va tenter de dessiner aujourd'hui. Coca sans bulle, la chanson que vous entendez en fond, là, qui commence à démarrer, décrit en fait une soirée hyper relou dans laquelle la chanteuse fait semblant de s'amuser, dessinant un caractère bipolaire partagé entre réalisme et enthousiasme forcé. Elle nous dit « Mais non, je ne m'ennuie pas, je m'amuse trop, c'est vraiment trop sympa. » Donc une génération désabusée, en fait, ça n'a pas beaucoup changé depuis les 90s.
Voilà, après cette partie actu, Génération X sur fond des musiques aseptisées, c'est maintenant.
Donc, MTV, c'est qui et c'est quoi ? MTV, ça veut dire Music Television, et c'est une chaîne qui est née aux États-Unis en 1981. Le premier clip qui a été diffusé est donc la chanson complètement prophétique des Buggles, Video Killed Radio Stars. MTV donc a relancé à cette époque l'industrie musicale qui va être désormais liée au même titre que YouTube aujourd'hui, et ça on l'évoquera à la fin avec notre invité, l'industrie musicale qui va être maintenant vraiment liée à l'image et qui offre ainsi une totale liberté aux innovations et à la création visuelle. Qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là ? Que les clips vidéo ne sont plus censés transcrire une image figée du groupe, mais bien de développer une imagerie et une esthétique propre à chaque groupe, donc ça déploie totalement la créativité des musiciens qui peuvent beaucoup s'amuser avec leur image. Donc avec MTV, l'industrie musicale bascule dans l'ère vidéo. Le deuxième phénomène qu'on observe, c'est une starification totale de la musique. On peut le dire, et peut-être que c'est discutable, Avec MTV, la musique est devenue mainstream. La chaîne a créé l'archétype de starlette à paillettes. On pense à Madonna, à Michael Jackson. Et tout cela a donné lieu à une recherche des téléspectateurs et des auditeurs qui tentent d'imiter leur modèle et de participer à cette coolitude qui s'en dégage. En fait, MTV, comme le dit Frédéric Martel dans son célèbre ouvrage Mainstream à propos des industries créatives, a créé le lien manquant entre culture et marketing, entre culture de niche et culture de masse. Mais quelle est-elle exactement, cette génération, Marie ?
Alors, cette génération, c'est avant tout une jeunesse en mal de profondeur et en recherche d'identité. La génération X succède à celle des baby-boomers, c'est-à-dire une génération de l'après-guerre qui devait participer à la reconstruction du pays, une génération intimement liée à l'idée de la nation du coup, avec une vraie identité claire et politique. Donc en gros, la réponse à l'ennui de la génération X, ce serait l'MTV. L'identité de la génération X, ce serait MTV. Donc dans le roman de Douglas Coupland, Génération X, qui est en fait une longue série de chroniques, un véritable manifeste de la génération X. Les personnages ont 20 ans, ils s'ennuient, ils n'ont pas de travail. Il n'y a donc pas de critères professionnels ou de mouvements particuliers qui les réunit. On a un ton là chez David Coupland qui est extrêmement cynique et qui manifeste un désintérêt apparent pour tout, qui critique de façon très caustique la société américaine de la fin du XXe siècle. C'est un roman qui est divisé en plusieurs parties titrées. Nos parents s'en sortaient mieux, ou encore mort à 30, enterré à 70, ne t'accepte pas, ou encore je ne suis pas un cœur de cible. Il offre une double lecture qui accentue la dimension cynique avec des expressions et des mots suivis de leur définition. En fait, le texte prend une moitié de la page et sur l'autre partie de la page, on a des définitions. Voilà. Donc, dans Danné, là, dont j'ai fait la chronique tout à l'heure, Madison reproche à ses parents leur manque d'attention, leur absence habituelle. Elle devient complètement folle à force de solitude et de manque de repères. Elle trouve donc en enfer une nouvelle maison et chez Satan un nouveau père. Alors, dans Moins que Zéro, qui est le premier roman de Bret Easton Ellis, il avait 21 ans lorsqu'il le publie, on assiste à la naissance des personnages de Suite Impériale et en fait même ceux de American Psycho. Clay, donc le personnage principal de Moins que Zéro, ça pourrait très bien être Patrick Bateman 20 ans après, cette espèce de héros psychopathe du célèbre roman adapté en film par Marie Aron. Clay a à peu près 20 ans, il traîne avec une bande d'amis avec qui il échange finalement peu. Leurs relations sont bâties sur des dialogues absolument superficiels et même des interactions assez superficielles qui ne semblent pas avoir de but ni d'intérêt pour les uns ni pour les autres. Ils sortent des clichés tout droit sortis d'MTV, comme par exemple Clay qui sort à un moment « Je comprends pas pourquoi Alana voudrait baiser avec Rip vu qu'il ressemble pas du tout à David Bowie et qu'il n'est pas gaucher et qu'il n'habite pas à Colony. » Donc Clay voit certains d'entre eux un peu plus intimement, mais bon, c'est assez rare. Les personnages du roman sont sans cesse occupés, ils ont toujours des trucs à faire, mais en fait, jamais véritablement quelque chose en particulier, quoi. Il n'y a pas vraiment de but. Et Clay est très rarement seul. Et les seules fois où l'on a accès à ses pensées intérieures, donc à sa solitude, c'est lors de passages en italique dont on imagine qu'ils correspondent en fait aux phases où il est en pleine défonce, où il vient prendre de la coke ou des trucs comme ça. Par exemple, un jour, il se trouve en voiture avec ses petites sœurs, il aperçoit une voiture en feu sur le bord de la route, et voilà sa réaction. Je ne sais pas pourquoi cette voiture en feu m'a troublée, mais je ne pouvais pas l'oublier. J'avais la vision d'un enfant encore vivant, allongé dans les flammes, en train de brûler. Peut-être un gosse projeté à travers le pare-brise sur le moteur. Si bien que j'ai demandé à mes sœurs si elles pensaient avoir vu un gamin en train de brûler, de se liquéfier sur le moteur de la voiture, et elles m'ont dit « Non, et toi ?» Mais j'ai vérifié dans les journaux du lendemain pour être sûre qu'il n'y avait pas de gosse qui brûlait sur le moteur. Et la même nuit, un peu plus tard, je me suis assis au bord de la piscine en pensant à tout ça jusqu'à ce que je m'endorme, mais pas avant qu'il n'y ait une autre panne de courant et que la piscine devienne noire. Je me rappelle aussi qu'à cette époque, j'ai commencé de collectionner des coupures de presse. L'une parlait d'un gosse de 12 ans qui avait abattu son frère par accident à Chino. Une autre parlait d'un type à Indio qui avait cloué son gamin sur un mur ou une porte, je me souviens plus, puis lui avait tiré une balle en plein visage. Une autre encore d'un incendie dans une maison de retraite qui avait fait 20 victimes. Je conservais beaucoup de coupures à l'époque, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de coupures dignes d'être conservées. Et là, en fait, on s'aperçoit que Clay incarne un petit peu vraiment les prémices de ce que va être ensuite Patrick Bateman dans American Psycho et cette espèce de fascination pour l'horreur et pour la mort. Et cette génération X a une vision du monde complètement artificielle, superficielle, mais avec un rythme super trash et une grille de lecture super trash aussi. Donc MTV est intimement lié à la drogue. Rien que lorsqu'on écoute les jingles « I want my MTV, too much is never enough », on ne peut pas s'empêcher de penser à quelque chose qui soit intimement lié à l'addiction. Or, l'univers de la drogue est bien celui du masque, ce qui permet un semblant de bonheur intense et éphémère, superficiel et super trash quand même aussi. Donc chez Bret Easton Ellis et dans Moins que Zéro particulièrement, les références à la drogue sont évidemment nombreuses, d'ailleurs pas que dans Moins que Zéro, mais aussi toutes les références à la chaîne MTV, puisque MTV est mentionné à peu près toutes les 5 pages. Et MTV est justement cette chaîne du zapping. Non seulement les clips vidéo sont courts, mais ils se succèdent sans trêve, rappelant un peu le rythme de prise de cocaïne du personnage principal Clay. C'est court, c'est rapide, c'est fort et c'est de la merde, mais qu'est-ce qu'il adore ça ? Or, le rythme narratif employé par Bret Easton Ellis, qui en fait sa signature, est lui aussi très rapide. Et a un côté un peu cinématographique comme ça, dans les images qui se succèdent très rapidement et les pensées qui sont rattrapées par les actions qui défilent sans véritable cohérence, sans véritable trame, parce qu'il n'y a pas d'intrigue en soi, il y a simplement comme une espèce de cadrage sur le quotidien d'une jeunesse pathétique. Donc une jeunesse dont le quotidien est quand même rythmé par la drogue. Outre les dizaines de traces que prend Clay chaque jour dans Moins que Zéro, l'éducation de Madison dans Danné, le nouveau roman de Palahniuk, est scandé par la drogue. Somnifères et Prozac en font partie, mais aussi coke et herbe. Le jour de son anniversaire, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, ses parents lui font d'ailleurs une jolie surprise. Donc ok, c'est largement exagéré, mais ça traduit quand même une certaine banalisation de la drogue. Et dans Moins que Zéro, un des personnages se prostitue carrément car il tombe dans l'enfer de la drogue et se retrouve en grande difficulté pour payer son fournisseur. Donc Moins que Zéro dessine les prémices d'une folie bien engagée qu'on va retrouver ensuite dans American Psycho. Les personnages commencent à faire des actions limites en termes de valeur morale, comme regarder des vidéos de filles très 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 jeunes se faire violer et découper les membres, ce qu'on retrouvera puissance 10 dans American Psycho après. Et le roman est aussi rythmé par la musique, les soirées, les courses en voiture où il écoute la radio Knock, cette radio californienne grunge pop qui était grunge punk dans les années 90. Les personnages du roman passent beaucoup de temps devant MTV ou avec la radio et les titres sont carrément mentionnés. Donc il y a les Eagles, John Jett and the Black Earths, Kelly Pussy, Boy George, Billy Idol évidemment.
To death. Oh dear lord.
Et dans American Psycho, donc, la musique a également une place centrale. American Psycho, je ne vais pas vous le refaire en détail, c'est l'histoire de ce golden boy new-yorkais qui, sous des apparences bien sous tout rapport, ce serait en fait le gendre idéal, l'homme à marier à sa fille, et se révèle être un véritable psychopathe serial killer. Le roman débute sur un morceau des Talking Heads, Nothing But Flowers, le groupe préféré de notre anti-héros Patrick Bateman. And a thing fell apart, nobody paid much attention. C'est une sorte de manifeste de l'univers du roman. On a voulu évoquer American Psycho parce qu'on trouve qu'il représente pleinement ce monde des apparences où tout le monde se ressemble, tout le monde s'ennuie, où en fait le seul moment où on a l'impression qu'il y a un peu d'intensité, c'est les descriptions des crimes abominables commis par Bateman. Et en dehors justement de ces scènes effroyables de meurtre, les seuls moments où lui-même semble s'émouvoir sont quand il s'emballe pour un groupe de musique ou qu'il écoute un morceau. D'ailleurs, dans le roman, on a un focus sur trois artistes en particulier, Whitney Houston, Genesis et Huey Lewis and the News, à qui l'auteur dédie carrément un chapitre par artiste. Et on pense que ce sont trois artistes qui sont assez représentatifs de cette génération MTV. Et la bande originale du roman, elle sert également à dessiner justement ce décor hyper, hyper purifié et typique de cette période qui a vu l'apogée des yuppies new-yorkais. Il y a un décalage complet en fait entre la musique que peut écouter Bateman, qui est ultra pop, une musique de supermarché, il le dit lui-même à un moment, faussement guillerette, et puis ses actes de massacre qui sont carrément immondes. Donc cette musique, elle aide également à apporter le cynisme sans faille de ces personnages. Je pense à ce moment où Patrick sifflote l'air du morceau « If I was a rich man » alors qu'il vient de demander à un sans-logis s'il prenait la carte American Express. Pour faire une petite pause, on va d'ailleurs écouter un morceau qui est très emblématique des 90s. Il s'agit de « Novocaine for the Soul » de Hills, dont les paroles nous plongent une fois de plus dans cet univers où tout le monde se fait bien chier. Je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Life is hard, And so am I. You better give me something so I don't die.
Après l'écoute de ce morceau, on reprend et on achève notre petit exposé sur la génération X en pointant quand même une chose, c'est que tous les romans dont nous parlons aujourd'hui mettent en scène des personnages seuls. Les textes sont souvent, voire tout le temps en fait, écrits à la première personne, et voire systématiquement, ce qui amplifie le caractère narcissique en fait, de la littérature issue de la génération X. Et qui correspond d'ailleurs avec le phénomène de starification chez MTV dont tu parlais tout à l'heure, Valentine. Mais ces solitudes sont pathétiques. Chez Brad Easton Ellis, le côté bling-bling des personnages et de l'écriture cache cette dimension, mais relève également d'un sabotage du personnage. Ils sont tous en fait des anti-héros. Exemple de l'humeur générale d'une génération. Donc, et là, je vais vous parler un petit peu plus Carew, donc de Steve Tezich, qui est sorti l'année dernière. Steve Tezich, qui a sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps Price. Bref, chez Tezich, on est dans le grotesque. On imagine bien, c'est l'histoire en fait de Saul Carew, 50 ans, anti-héros donc par excellence, alcoolique et non pas aigri, mais totalement indifférent, déréalisé et déresponsabilisé du monde. Il est scénariste et passe plus de temps en fait à corriger des intrigues merdiques qu'à exploiter le talent qu'il pensait avoir en écriture. Bref, voilà. Et un jour, il visionne un film dont il doit travailler le scénario et s'aperçoit qu'une des actrices secondaires se trouve être la mère biologique de son fils adopté, Billy. Billy, dont il est absolument indifférent, qui cherche absolument à avoir un contact avec son père et qu'il ne le trouve pas, etc. Donc, il décide de retrouver cette femme et de lui rendre un peu son fils. Façon scénario hollywoodien débile, qui est censé bien se finir, mais qui s'achève évidemment en catastrophe. Donc on imagine très bien hein, le cinquantenaire alcoolique bedonnant qui met mal à l'aise tout le monde en ne pouvant se maîtriser et qui se perd dans une histoire pas possible qui éclaire encore plus son égoïsme. Et d'un autre côté, et là on retourne un peu chez les Français avec Michel Houellebecq quand même, il fallait en parler, extension du domaine aussi. De la lutte. Voilà, on pourrait même parler d'extension du domaine de la loose.
Oh yeah.
Et Donc chez Welbeck, on vous le rappelle. Non, non, mais de façon générale, par rapport à la génération X, oui, je ne parle pas forcément de... Voilà, voilà.
Mais il adore. Hein.
Il adore, oui. Ouais. D'ailleurs, Michel, si tu nous écoutes.
Le genre sous cellophane, le genre en cubit, tout ça. C'est la même esthétique.
Voilà. C'est ça, exact. Donc le plus célèbre des romans de Welbeck, extension du domaine de la lutte, est l'histoire d'un trentenaire jeune actif qui travaille dans un bureau et obtient un SMIC par mois, et qui est en compagnie très agréable de Tisserand, collègue et ami, avec qui il passe la plupart du temps et qu'il critique en permanence, mais qui au final en fait n'est que son miroir, beau reflet dans lequel il admire sa déchéance. C'est ce roman qui expose la grande théorie, qui transforme la théorie du libéralisme économique en libéralisme sexuel. Donc chez Welbeck, il y a un aspect plus mélancolique, la monotonie de l'existence décrite et le discours allumé qui s'en dégage créent un contraste aussi triste qu'il la rend. Ouais, on est donc dans un format de personnage, hein, que ce soit dans Carou ou dans l'extension du domaine de la lutte, qui se déréalise, qui soit à la limite de la folie. Leur âme n'est plus vraiment dans leur corps. Conscience et corps ne se confondent pas, en fait, chez eux. On l'a déjà vu dans Moins que zéro, où les seuls moments où Clay semble lucide sur le monde, c'est dans ces fameux passages en italique où il est très certainement sous cocaïne. Et donc voilà, ce sont des écritures aussi où il y a une énorme présence de la mort. Voilà, une énorme présence de la mort. Par exemple, Clay pense souvent à la mort, donc il semble aussi être assez indifférent, même le personnage d'extension du domaine de la lutte. Mm-hmm. Je peux vous lire un petit extrait d'ailleurs.
Allez.
Qui parle de cocaïne ou pas?
Non, ça parle pas de cocaïne.
On a déjà eu l'instant drogue. Ça suffit maintenant.
Donc là, il est chez le médecin. Il est carrément à l'hôpital. Il a eu un petit souci, etc. Et il dit, les examens terminés, il s'approche de moi, le médecin, et m'annonce que j'ai une péricardite et non un infarctus, comme il l'avait cru tout d'abord. Il m'apprend que les premiers symptômes sont rigoureusement identiques. Mais contrairement à l'infarctus, qui est souvent mortel, la péricardite est une maladie très bénigne. On n'en meurt jamais, en aucun cas. Il me dit, vous avez dû avoir peur. Je réponds oui, pour ne pas faire du mais en fait, je n'ai pas eu peur du tout, j'ai juste eu l'impression que j'allais crever dans les prochaines minutes. C'est différent.
Enchanté. 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 De la musique avant toute chose, et tout le reste est de la littérature. Musique et littérature, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris. L'invité du jour. L'invité du jour.
C'est notre génération, on est comme ça.
De toute façon,
et bien justement, on va en discuter
vous
avec vous.
Pas de le dire depuis tout à l'heure. On se drogue et on est triste. Alors allons-y, maintenant, on va écouter.
Et quid de la nôtre. Du coup, qu'est-ce que ça a donné ensuite,
voilà.
Bon, ben justement, alors Thierry Teston et Alexis Broca, je vais pas vous demander votre âge, ça ne se fait
alors,
pas.
Alors j'ai 41 ans, voilà, je suis né le 27 août 1973 à Agen dans le Lot-et-Garonne, et nous n'avions pas MTV, je peux vous dire.
Donc vous êtes en plein dans notre génération.
C'est moi.
Et Alexis, je ne vous demande pas de me le dire, hein, vous n'êtes pas obligé de...
Bah, je ne vous le dirai pas.
Mais justement, alors est-ce que vous êtes bien issu de cette bouffe génération? Est-ce que vous vous êtes reconnu à certains égards dans ce tableau peu chatoyant que nous venons de dresser?
Bah, non.
Pas
non,
du tout.
Enfin, c'est pas que je me reconnais pas dedans, c'est que je vois que ça existait, mais je trouve que c'est très exacerbé par rapport à la réalité, en tout cas de ce que j'ai vu et vécu, moi, les gens qui m'entouraient, en fait. En tout cas, voilà. Je pense que toute cette génération-là, vraisemblablement, était plus aux États-Unis qu'en France,
oui,
déjà, de manière générale.
Il y a une grosse différence entre les deux.
Puisqu'on va parler d'MTV. MTV, c'est arrivé en France en 90, quelque chose comme ça, vraiment pompon. Moi, j'ai jamais vu MTV de ma vie, en fait.
Alors que moi, si.
Ouais, mais voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est une espèce de. Et en même temps, on connaissait tous MTV. Et on connaissait tous les images. Et moi, je vois, j'ai l'impression d'avoir vu cette chaîne. Et au moment, j'ai fait, ah, mais merde, je l'avais jamais vu, MTV, en fait. Et donc, oui, je pense qu'il y a ça. Après, je pense que c'est exacerbé énormément par la littérature, et plutôt des chouettes bouquins d'ailleurs. Mais moi, à titre personnel, ouais, j'étais désespéré parce que j'étais un adolescent et je prenais des râteaux, mais de là à dire que c'est générationnel, je pense que ça continue et ça existait avant, je crois.
Sous d'autres formes.
Voilà, enfin, je sais pas pour le moment.
Mais justement, parlons un peu de votre travail et de ce documentaire sur MTV. Comment l'idée vous en est venue, puisque vous l'avez découvert un peu sur le tard, et quel est le message que vous avez voulu exprimer en réalisant ce documentaire?
Alors, l'idée nous est venue parce qu'un producteur nous a appelé pour nous proposer de le faire.
Tout simplement.
Qu'on s'est aperçu à ce moment-là que ça n'existait pas, un documentaire sur MTV. Qu'il s'agissait de faire un film qui soit diffusé sur Arte dans le cadre de la collection Summer of the 90s. On nous a demandé de faire un film sur l'histoire d'MTV et la naissance d'MTV qui est donc dans les années 80. Donc ça, c'était un petit problème de parcours qu'on a eu à faire parce qu'on n'était pas forcément au bon endroit. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Non, on a juste voulu parler d'MTV quand ça parlait de musique. C'est-à-dire qu'on s'est dit on s'arrêtera quoi qu'il arrive au moment où ils font de la télé-réalité et tout ça. Parce que c'était bon, après on s'en fout, ça nous intéressait pas déjà d'une part, et d'autre part il y avait quelque chose d'assez révélateur de ce qu'on va appeler après la crise du disque, de l'avènement d'internet et tout ça, où finalement la musique devient autre chose que ce qu'elle a été grâce à MTV, qui a contribué largement, je vous rejoins là-dedans, à vendre des brouettes et des brouettes de disques pendant les années 90
et à faire émerger un nouveau modèle de star aussi.
Et à faire émerger...
Très axé
alors,
sur l'image, la construction MTV esthétique.
MTV a mis l'image sur le son. C'est assez amusant d'ailleurs parce que ça a commencé à diffuser MTV au début des années 80. Ils ont commencé à diffuser d'abord dans les campagnes. La chaîne n'a pas commencé dans les grandes villes d'abord parce qu'ils n'avaient pas le pognon pour émettre dans les grandes villes, etc. Et donc il y a plein de gens, des artistes qui ont commencé à apparaître et les gens ne connaissaient pas leur tête. Forcément, parce qu'ils passaient pas trop à la télé et tout ça. Donc il y en a à qui ça a fait vraiment du bien, et il y en a à qui ça a fait vraiment du mal. C'est-à-dire qu'il y a un chanteur qui s'appelle Christopher Cross, qui a beaucoup de succès à l'époque, qui a un physique assez jovial, on va dire. Et alors lui, quand MTV a commencé, donc il fallait tous aller sur MTV, les disques a fait... Voilà, et ça marche dans les deux sens. Voilà. Mais l'image, oui, elle est importante. C'est surtout que c'est un nouveau vecteur. C'est-à-dire que on n'écoute plus la télé à on n'écoute plus la musique à la télé, mais en fait, on n'écoute plus la musique à la radio, on l'écoute à la télé maintenant, en fait. Donc, du coup, il y a une image. C'est une autre manière, comme maintenant, on écoute ça sur des ordi. Je veux dire, je pense que c'est le support d'écoute qui a changé aussi. MTV,
c'est vraiment l'ancêtre de YouTube, en fait. MTV.
Exactement.
Et d'ailleurs, la chaîne a été détrônée par YouTube.
La chaîne n'a pas voulu aller vers ça. Ils avaient les moyens d'être YouTube, puisqu'ils avaient les clips, ils avaient les supports diffusion, ils avaient le pognon, ils avaient la technologie, ils avaient tout. Mais ils ont voulu, comme tout le monde en fait, comme dans l'industrie du disque, tout le monde a voulu dire non, ça va pas réglementer, légiférer et tout ça. Et ils n'y sont pas arrivés. Mais c'est assez amusant de noter qu'en fait, pour moi, MTV, c'est l'ancêtre de Facebook. C'est-à-dire que MTV, quand ça sortait aux États-Unis, c'était un truc qui reliait les ados ensemble. C'était leur club, leur machin, ça, etc. Donc il y avait vraiment une identité autour de ça. Et c'est aussi chronophage que Facebook. C'est-à-dire qu'on passe la journée devant ce truc-là, à le regarder pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et à voir son petit cerveau fondre progressivement au fur et à mesure que la journée avance. Voilà. Mais c'est assez amusant parce qu'il y avait un vrai phénomène identitaire et le côté chronophage, les deux. Enfin, pour moi, ça ressemble beaucoup. Voilà. Je ne peux pas du tout demander ça, mais en tout cas, je l'ai dit.
Donc, très bien, merci beaucoup. Mais alors, vous, Alexis, est-ce que vous êtes issu de cette beauf génération ? Comment ça résonne dans votre tête tout ce qu'on vient de dire ?
D'après les sondeurs, en effet, je suis issu de cette génération. Ça résonne tout de même assez fort dans ma tête. ce que je peux vous dire simplement, c'est que vous avez cité Bret Easton Ellis. En effet, dans la littérature des années 60, 70, on remarque. Beaucoup d'insistance sur des thèmes comme les grands rêves communautaires, les réalisations collectives, les utopies, etc. Et à partir des années 80, tout ça commence à disparaître. On en voit apparaître une espèce de nouvelle idéologie avec la faillite de ce qui était peut-être le dernier idéal, qui était l'idéal hippie. On voit apparaître l'idéologie du capitalisme toute nue, c'est-à-dire une espèce de matérialisme bas du front. Un espèce de désintérêt pour tout ce qui peut tout ce qui s'élève un petit peu au-delà de la matière, et une réduction à l'intérêt, à l'argent, une suppression des valeurs de bien et de mal. Et les personnages de Bret Easton Ellis sont tout à fait emblématiques de ça. Alors c'est vrai qu'ils sont pas représentatifs d'une génération, parce que ce sont des personnages qui vivent dans un petit îlot à Los Angeles qui s'appelle Colony, en effet, qui est l'endroit où Century City, qui est l'endroit où où vivent en fait les milliardaires hollywoodiens. C'est une sorte de super Beverly Hills, si vous voulez. Et le Manque Zéro raconte en fait la progéniture de ces gens-là, des magnats d'Hollywood. Et qui sont les gens qui sont... Cette progéniture sont en fait... cette jeunesse-là est en pointe, si j'ose dire, par rapport au reste de la jeunesse. Et c'est celle qui va expérimenter en premier les nouvelles façons d'être, les nouveaux usages, en quelque sorte. Et ce que montre Brett Easton Ellis, en effet... c'est pas pour rien qu'on appelle son écriture le behaviorisme. Il montre des gens réduits à leur comportement, réduits à leurs actes. Et parce que finalement, ce sont des gens qui n'ont plus la vie intérieure qu'avaient pu avoir les gens des années 60-70, parce qu'ils méprisent ça, parce que pour eux, tout se joue en termes d'intérêt. Et ce sont des gens donc, qui se définissent essentiellement par leur avidité. Ça peut être une avidité de matière, ça peut être une avidité de charnelle. Et cette avidité, ils l'ont apprise de leurs parents, qui sont des gens qui sont revenus, qui ont été d'anciens hippies, en effet, mais qui sont revenus de cette idéologie pour gagner de l'argent. Et c'est les gens qui ont... Donc d'anciens hippies qui ont abjuré leurs idéaux pour gagner de l'argent et qui ont éduqué leurs enfants en fonction de l'espèce de matérialisme prégnant qu'ils ressentaient dans l'époque, simplement. Et en effet, Ellis pousse tout ça très loin dans American Psycho, où là, le personnage est donc l'acmé du consommateur, c'est-à-dire c'est un trader, il consomme les gens de la même manière qu'il consomme des choses. C'est quelqu'un qui est obsédé par les signes extérieurs de puissance, pas tant les signes extérieurs de richesse d'ailleurs, parce qu'il les a déjà, mais ce qui l'intéresse, c'est apparaître mieux que ses semblables, que les autres traders.
Mais se différencier d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où il est confondu, quelqu'un le confond avec une autre personne.
Et ça le met tout le temps en rage, en effet.
Ouais, ça le détruit totalement.
Voilà. Alors ça, c'est un thème courant chez Ellis, il y a ça aussi dans Glamourama, les personnages qui se confondent. Ce que Ellis vous montre, c'est simplement que nous sommes interchangeables, l'identité, l'individualité sont des illusions qui ont été détruites par la culture de masse, et à partir du moment où nous avons tous la même culture, les mêmes idées, nous ne sommes plus des individus, et c'est pour ça que nous pouvons. Et c'est pour ça que les personnages de Manque Zéro sont pour la plupart aussi interchangeables. Voilà.
D'accord.
Donc je suis interchangeable.
Mais c'est magnifique.
Oui, mais pour nous, tu es unique.
Merci, et tu le seras toujours.
Mais interchangeable.
Et justement, pour continuer avec Brett Easton Ellis, dans quelle mesure on pourrait dire, et est-ce qu'on peut le dire déjà, que Welbeck et Ellis appartiennent ou manifestent une même génération?
Alors, on peut le dire dans l'absence d'idéaux. On voit le personnage de Welbeck, Michel, le personnage d'extension du domaine de la lutte, c'est un personnage qui n'a pas de religion, qui recherche comme ça une sorte de point d'ancrage métaphysique à son existence, tout en sachant qu'il ne le trouvera pas. Welbeck, si vous voulez, c'est un peu la version dépressive des personnages de Brett Easton Ellis, et c'est aussi la version franchouillarde et désargentée. Autant les personnages d'Ellis baignent dans l'argent et autres substances nocives, autant le personnage de Welbeck, lui, baigne dans une espèce de demi-monde terne qui est celui de la banlieue, des lointaines zones commerciales des villes de province. Il y a toute une esthétique qui va avec, qui est celle de la charcuterie industrielle, des vacances de masse, de l'informatique, en effet. Toute une esthétique du médiocre, il faut bien le dire, que Welbeck s'est à main veille rehaussé. Donc voilà, c'est la version sans âme de cet hédonisme. Et quand je vous parlais de réduction à l'argent tout à l'heure, la théorie du libéralisme sexuel de Welbeck réduit effectivement les relations amoureuses aux règles d'un marché financier, en fait. Et ça, c'est pas inintéressant. L'amour, c'était le grand rêve hippie. On voit que l'amour, finalement, est un bien de consommation comme un autre.
Comme
ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Il y a un personnage qui meurt de ne pas en avoir assez.
Oui, c'est vrai.
Mais voilà, c'est effectivement dans ce sens-là qu'on peut parler de bof génération, d'ailleurs.
Oui. Justement, en parlant d'esthétique, il y a un moment dans votre documentaire, Thierry Teston, où on voit l'animateur emblématique de la chaîne, Ray Cox, dire « c'est peut-être de la merde, mais on adore ça ». Alors justement, c'est une question pour vous deux, mais est-ce que vous pensez que cette génération 90s, elle a été moins... exigeante peut-être esthétiquement parlant, est-ce que ça a été le début un peu du déclin culturel dont on parle maintenant?
Alors, il y a deux... ça a été autant le début du déclin que le début de quelque chose d'assez beau, je trouve. Alors, s'agissant des clips, c'est-à-dire que les années 90, c'est l'émergence de pas mal de réalisateurs, dont Marc Romanek, dont Spike Jonze, Michel Gondry, Chris Cunningham, il y en a plein... il y a quand même des choses absolument sublimes qui ont été faites dans les clips à ce moment-là, pour plein d'artistes, et qui ont figé, posé une nouvelle esthétique, et qui ont, voilà, qui ont emmené aussi l'image qui bouge ailleurs que là où elle était avant. Donc il y a une vraie avancée là-dedans. MTV a permis ça, parce que c'était une compète entre les artistes qui auraient le meilleur réalisateur, qui aurait le clip le plus cher, le machin, le ci, le là. Donc c'est devenu un laboratoire. Il y a eu énormément de moyens, mais qui ont été bien utilisés. Toutes les clips de Björk et tout, il y a des choses super belles. Donc ça, c'est un vrai point positif et réel. Ça a permis à plein de grands artistes d'émerger, donc ça, c'est plutôt chouette. Et on the other hand, il y a effectivement énormément de merde très marketée qui sont sorties, des clips pas inspirés et qui, en fait, pour le coup, faisaient ressembler un peu la chaîne à une espèce de course de voiture où Madonna regardait ce qu'avait Maria Carey, qui regardait ce qu'avait Machine, qui regardait ce qu'il y avait truc, et c'était la compète de je te mets des bagnoles, des machins, des avions, des trucs et tout ça. Assez décérébré, pas souvent très joli, d'une grande vulgarité. Ça va arriver un petit peu plus tard après avec les compètes dans le monde du hip-hop qui ont des belles choses à base de voitures et de filles avec des petits maillots de bain. Voilà, mais je veux dire, quand on parle de ce côté mainstream et tout ça, ça a évidemment poussé des choses assez vilaines. Et je pense que c'est ce qu'on en retient, et on a raison de retenir ça, parce que finalement, le beau échappe souvent au regard attentif des gens. Donc je pense que ce que moi, je trouve être de beaux films, finalement, ne sont que les clips de machin et machin pour l'ensemble du public, et ils n'ont pas vu forcément l'œuvre en tant que telle. Donc c'est à titre personnel que je dis ça, mais voilà. Enfin, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer que ça a été juste... Enfin, quand on se repromène là-dedans, comme nous on l'a fait, qu'on a reçu plein de DVD, de films, de machin et tout ça, on a vu énormément de choses, et même des choses qu'on n'avait jamais vues. Il y a eu des très très beaux trucs.
Ouais, voilà. Il y a eu des bonnes surprises,
vraiment
alors.
Des beaux trucs, vraiment des beaux trucs. Je suis très positif comme garçon. Moi, je ne suis pas désenchanté comme vous. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Voilà.
Voilà. Je sais. Effectivement, c'est pour ça qu'on commence sur cette touche.
Voilà. Ben, soyez-le, alors. Bon.
Et alors, chacun, quelle serait votre playlist, s'il en fallait une, pour accompagner ces lectures et cette époque à laquelle vous appartenez, donc.
Une marche funèbre.
Le premier dinosaure dit.
De quoi ?
Non. Une playlist pour accompagner les années 80.
Quelques pistes comme ça qui
vous ont marqué. Il y en a plein, forcément. La chanson qui a donné son titre à moins que zéro de Brett Snellis, qui est une chanson qui s'appelle Less Than Zero, d'Elvis Costello, qui est une super chanson qui met en scène une sorte de. Constate la nullité à la fois de tous les actes qu'il commet et du monde autour de lui. Et les actes qu'il commet sont terribles, mais c'est pas grave puisque rien ne signifie rien. Voilà, ça illustre pas mal, à mon avis, cette espèce de nihilisme mollasson qui était un peu prégnant dans les années 80. Maintenant, il y a plein de choses. Hein. J'aime les bonnes vieilles chansons de Depeche Mode un peu industrielles, comme Master and Servant, par exemple, me pourrait dire quelque chose de l'univers des années 80. Quelques chansons un peu avides de Cure, comme Give Me It, disent, à mon avis, quelque chose de cet appétit-là aussi. Voilà, il y avait de très jolies choses en fait dans les années 80. Il y avait de très belles façons.
90, hein.
80-90, ouais.
Ouais, on est entre les deux.
Il y avait de belles façons de dire le néant.
Voilà. J'imagine que je vais être soumis au même exercice.
Ah, bien sûr,
exactement.
Vous n'y échapperez pas.
Il n'y a pas de raison pour.
Alors, j'ai envie de dire déjà Génération désenchantée de Mylène Farmer. Je crois que c'est très important parce que voilà, comme ça on reste dans la thématique. Hein, voilà. Alors, comme moi je suis venu pour MTV, je pense que Nirvana, c'est
sûr,
une évidence.
Ouais. On va diffuser d'ailleurs Smells Like Teen Spirit.
En plus, ce qui est assez amusant, c'est que. C'est une espèce de relation d'amour vache en fait entre Nirvana qui vilipendait les valeurs que représentait cette chaîne, mais qui grâce à cette chaîne quand même a gagné un petit peu. Ouais. Mais c'est pas phagocyté en fait, ils ont été diffusés. Hein. Donc après ils ont fait un clip qui se foutait un peu de la gueule de MTV et tout ça. Mais en même temps, les mecs, ils n'empêchaient pas MTV de les diffuser. Et en même temps, c'est grâce à MTV que Nirvana a été connu. C'est un peu le serpent qui se mord la queue toujours.
Il y a eu ce MTV Unplugged de Nirvana qui est
magnifique. Qui est magnifique. Donc, il y a Nirvana. Moi, je dirais, enfin, je reste vraiment dans la déprime. Je pense qu'Aphex Twin était quelque chose qui, à cette époque-là, voilà, était là, puis était à la lisière d'MTV parce que c'était des clips qui étaient diffusés un peu tard, un peu choquants, machin, parce qu'il y a eu beaucoup de censure aussi. Et, Écoutez, non, mais je sais pas. Enfin, il y en a tellement, Non, voilà. Mylène Farmer, Aphex Twin et Nirvana.
Ok. Et juste, je vais revenir avec vous, Alexis, qui êtes aussi écrivain. Est-ce que vous vous sentez influencé par cette écriture-là lorsque vous écrivez, vous?
Alors, je l'ai été beaucoup, en effet. J'étais un fan de Bret Easton Ellis. Et comme Bret Easton Ellis vous donne une espèce d'esthétique clé en main, qui est très facile à parodier, j'avoue avoir cédé à ce petit penchant dans mon premier bouquin. Après, j'en suis sorti parce que cette écriture, elle a ses limites, et puis elle marche surtout pour celui qui l'a inventée. Et puis surtout, aujourd'hui, je cherche à faire des choses plus, les temps ont changé, le monde a changé, j'ai plus envie de raconter cette espèce de vacuité qui, à mon sens, correspond à une époque passée. Aujourd'hui, je ne revois plus, en tout cas dans le paysage, c'est heureux, cette espèce de cynisme prégnant. Voilà.
D'accord.
Donc,
et si vous pensez à d'autres écrivains français qui seraient influencés par...
Par cette époque
par cette écriture-là.
Je pense que, sans être influencé par cette écriture-là, je pense qu'il y a des écrivains qui sont très représentatifs de cette époque. Je pense à Gian, je pense à Vincent Ravalec, ce qu'on a appelé les nouveaux réalistes, ce qui étaient des types qui essayaient de montrer la société française de ces années-là, dans ces aspects souvent pas les plus réjouissants, ils venaient avant Houellebecq et ils essayaient de sauver quelque chose d'humain dans un monde inhumain. Voilà. Ce sont des auteurs qui je trouve, n'ont pas perdu d'intérêt. Ils sont de vrais témoins d'un temps. Voilà.
Ok,
moi j'ai une dernière question pour Thierry Tesson. Je vous ai vu pas mal réagir sur notre exposé par rapport à nos partis pris sur la chaîne et sur ce qu'elle représentait par rapport à l'industrie musicale, par rapport au fait qu'elle a quand même contribué à créer une esthétique assez globale, assez encadrée, qu'on a appelé mainstream ici. J'aimerais avoir votre retour par rapport à vos réactions.
Je pensais à Johnny Hallyday, en fait. C'est-à-dire que je me disais, vous disiez que c'est MTV qui poussait le mainstream et que c'était ce genre de phénomène qui était un petit peu discutable et tout ça, enfin qui générait une culture de masse. Mm-hmm. Et on a ce monsieur qui, depuis bientôt une cinquantaine d'années, qui pour moi représente à peu près ce qu'on peut appeler la lie de la culture en France et de la musique d'une manière générale, tant sur les textes, la musique, que l'incarnation esthétique qu'il nous donne à chaque fois dans des stades devant des gens avec des pulls, avec des huskies dessus. Mais pas que, ça. Et en fait, je me dis, c'est assez amusant parce qu'on balaye pas finalement beaucoup devant sa porte. C'est-à-dire qu'il y a du mainstream avant MTV, il y a des artistes qui ont... Voilà, ça existe depuis super longtemps.
Bien sûr,
voilà.
Oui.
Donc, je veux dire, c'est que... Non, mais c'était... Enfin, voilà, en filigrane, ça me dérangeait un petit peu parce que finalement, le pas beau pour beaucoup... C'est quelque chose qu'on trouve depuis, effectivement, dans la musique. Hein, évidemment, je ne penserai pas autour de ça. Voilà. Et après, il y avait ça, et il y avait un autre point, mais je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand je vous entendais décrire cette génération et le rapport qu'elle peut avoir à MTV, tout ça, en fait, j'ai vraiment l'impression d'entendre parler de votre génération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les outils qui changent, mais j'ai l'impression que l'État reste le même.
Tout à fait, voire pire.
Mais je ne sais même pas, en fait. Je pense qu'après, les problèmes se déplacent, vraisemblablement. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on change juste d'outils, j'ai l'impression, dans notre consommation des images et tout ça. Mais que c'est assez similaire, j'en ai peur.
Oui, c'est là que votre comparaison entre MTV et Facebook était très intéressante à cet égard.
Je sais pas. Moi, Facebook, je ne suis pas dessus. Je n'ai pas MTV, je ne sais pas, des trucs, je trouve ça un peu flippant. Mais voilà, en tout cas, je vous dis ça, c'est pour vous, hein, vous voyez. Mais ne prenez pas trop de distance avec les anciens.
Jamais. Toujours du respect. Non, mais pour revenir juste au fait, évidemment, le mainstream n'a pas été inventé par MTV. J'aurais peut-être pu préciser, en musique, dans les années 20-30, si je ne me trompe pas, il y avait les producteurs de la Tin Pan Alley qui produisaient un son qui était hyper uniforme et qui était diffusé massivement avec les moyens de l'époque. Donc c'était moins massif, évidemment. Mais en général, dans l'histoire de la musique, on considère que ça a été à ce moment-là que la musique mainstream a été créée. Mais MTV a juste renforcé à grande échelle. Le phénomène.
Elle a limité. Enfin, c'est. Il y a des gens qu'on a rencontrés dans le film. Là, il y avait ce groupe qui s'appelait Aristide Development ou les Spin Doctors. Enfin, c'est des gens qui ont eu un tube ou deux.
Et qui ont complètement disparu.
Et qui
ensuite,
ont été portés au pinacle. Et il y avait les je sais plus comment ils s'appelaient, les mecs en Angleterre. Enfin, bref, peu importe. Et qui tout à coup se retrouvent des espèces de stars du jour au lendemain
du
et tout machin. Et et qui dégage, voilà, et c'est une extrême violence. Et c'est-à-dire que pour le coup, c'est, y a vraiment, on fait, on défait des gens. Aujourd'hui, avec Internet, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un lien. C'est là où moi je trouve ça intéressant, c'est que les gens peuvent aller chercher et trouver leur public. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les maisons de disques, maintenant, quand ils signent des artistes, ils regardent, t'as combien de mecs sur Facebook qui sont copains avec toi, t'as déjà fait un clip, allez, comment ta pochette et tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous? Non, mais viens quand même, on va s'organiser, mais voilà.
On fait une avance de 20 000 euros, t'inquiète pas.
Voilà, mais voilà, c'est-à-dire que maintenant, le travail est fait. Et ça, je trouve ça chouette, par contre, aujourd'hui, de pouvoir atteindre son public.
On peut sortir des circuits et on peut se débrouiller avec d'autres moyens.
Voilà. Je suis très, très optimiste pour la suite.
Mais nous aussi.
Je suis enchanté.
Nous sommes tous enchantés. Bah merci à vous d'être venus et d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Tableau parallèle.
Vous l'aimez ? Vous l'avez jamais entendu ça ? Oui ? En ce moment, il est en Europe, je crois. C'est du moins ce qu'ils ont dit à MTV. Vous aimez son dernier disque ?
Et moi alors ?
Comment ça ?
Et moi alors ?
Ça va aller.
J'en sais rien, je crois pas que ça va aller.
Parlons d'autre chose.
Et moi alors?
Allez, Clé, ne soyez pas si égocentrique.
Je suis engagé dans un vaillant combat contre un inexplicable sentiment de solitude. Tout paraît faux et peu naturel. Comment puis-je me sentir seul quand je suis ici avec les deux personnes que j'aime le plus au monde? Si j'ai une famille, elle est là. S'il y a des gens qui m'aiment, ce sont ces deux-là. Tous les arguments contre la solitude sont en ma faveur, et pourtant, je me sens plus seul que jamais. Et ce foutu chien.
Économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte. Son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte. Son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société.
Bien que je ne puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez serrer ma main et sentir ma chair, et même que vous puissiez penser que nos modes de vie sont probablement comparables, je ne suis tout simplement pas là. Quand je vois une jolie fille passer dans la rue, je pense à deux choses. Une partie de moi voudrait sortir avec elle, parler avec elle, être vraiment gentille, tendre, correcte avec elle. Et que voudrait l'autre partie de lui? Ben, elle voudrait savoir de quoi sa tête aurait l'air, plantée au bout d'une pique.
Personnellement, je n'ai jamais servi de miroir flatteur au succès de mes parents, car le luxe était déjà acquis. À ma naissance, il était déjà entendu que le monde se devait de nous traiter avec déférence. Au mieux, je servais de souvenirs, comme la drogue ou la musique grunge, un signe de leur jeunesse enfuie. Mais qui suis-je pour parler ? Je suis morte. Je suis une petite mordeuse et je suis morte.
Commentaire.
Alors voilà, on arrive sur la fin de l'émission et on vous a réservé du coup un petit commentaire. Ça va se retrouver dans chacune des émissions en fait. Il s'agira d'employer un petit peu un langage universitaire, en tout cas de faire une espèce d'analyse littéraire de textes, généralement des paroles, mais ça pourra être parfois aussi des textes littéraires. Voilà, et alors aujourd'hui, on va commencer avec Stromae, hein, qui est un personnage ultra populaire. On se demande où t'es papa dans le monde entier. Et mamie danse tout aussi bien sur la musique du Belge que les gamins de 3 ans et demi, hein, faut le dire. On en pense qu'on veut de Stromae, j'ai aucun problème avec ça. Et pourtant, il y a quelque chose d'assez remarquable chez lui et très représentatif de notre génération, cette espèce de mélancolie latente et cachée derrière une apparente humeur de festivité. Dans sa piste « Alors on danse », l'ambiance de boîte contraste avec des paroles somme toute assez tristes hein, qui mettent en avant le pathétique des soirées où tout le monde prend cher pour oublier son quotidien.
Alors on danse. Alors on danse. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit...
Le caractère répétitif et lassant de la vie est bien signifié ici par les multiples anaphores, qui dit, et la répétition à l'infini de « alors on danse », puis à la fin... Et puis il y en a encore, donc il y a cette espèce d'inlassable répétition, on a l'impression d'être dans la spirale de l'enfer qui ne s'arrêtera jamais. Et dans ce premier couplet, Stromae construit un système d'apposition en faisant résonner un mot par un autre. Il commence par l'univers du travail et de l'économie. On a travail, taf, thune, argent, dépenses, crédit, créances, dette, huissier. Une construction en apposition qui ne laisse aucune correspondance possible, tout est bloqué dans la formule qui dit.
Dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil.
Ici, on trouve une association d'idées assez banale, mais rendue violente par le caractère bref de cette même formule, qui dit. C'est-à-dire être dans la merde, avoir des gosses, et toujours. Un sentiment insupportable d'infini vertigineux qui se traduit dans le divorce au final. Gosse rime d'ailleurs avec divorce en fait, et ça, sans Stromae, on ne l'aurait pas trouvé.
Alors ça y est, forcément il part de la mort, il pouvait tomber plus bas dans les associations morbides et passe du cercle familial, qui dit proche dit deuil, à l'échelle planétaire, qui dit famine dit tiers monde.
Alors on danse. Alors on danse.
Et là, il justifie sa chanson « Alors on danse ». Dans le terme « alors », ici employé, on pourrait y voir le « voilà » tragique du théâtre qui annonce une mort certaine et proche. Or, cette mort certaine et proche, selon Stromae, se retrouve dans les attitudes de gens venus se saouler et s'épuiser en boîte.
Alors on danse. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort.
La voilà, la mort, elle était certaine et proche, on l'a dit. Maintenant, elle est toute prête au précipice.
Il y en a plus, et il y en a encore. Et cela zique ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête.
Référence à la drogue encore et au rythme de la musique. Association drogue, problème, musique, quand il y en a plus, il y en a encore.
Prie pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu
crie encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante.
Après la drogue, la religion, il faut bien penser à purifier son âme. Suivi de ces petits la-la-la lancinants qui nous emportent dans une chorale de démons.
Alors on chante. Puis seulement quand c'est fini.
Enchanté. De la musique avant toute chose, et tout le reste est de la littérature. Musique et littérature, un dimanche par mois, sur Radio Campus Paris.